Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ça se dispute, bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Il est bientôt 20h, dans un instant je vous présente mes invités autour de cette table pour cette émission du samedi soir. Mais avant, le tour de l'actu est signé Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. À la une, les incendies en Gironde, le feu n'est toujours pas maîtrisé. De nouvelles évacuations sont en cours face à l'avancée des flammes. Le feu a notamment repris dans la commune de Landiras, au sud-est du département. On écoute le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostic.
Nous sommes à 3200 hectares de feu brûlés. Ce sont les mêmes éléments que ce matin. En revanche, effectivement, le feu n'est pas fixé, il n'est pas maîtrisé. Cela signifie qu'il ne progresse pas dans son périmètre. Mais effectivement, il y a un certain nombre de sautes de feu, comme on dit. Il y a un vent qui se lève en général au cours de la journée. Et cela occasionne effectivement des sautes de feu, des feux qui repartent. Qui nécessite évidemment une vigilance de tous les instants des moyens terrestres et aériens, donc des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile et de l'ensemble de ceux et celles qui aujourd'hui se mobilisent contre le feu pour arriver effectivement à terme à le fixer et à le maîtriser.
À Cazaux, en Gironde, plus de 300 habitants ont pu revenir quelques minutes à leur domicile pour récupérer animaux et vêtements laissés sur place. Une équipe de CNews a suivi le premier convoi. Un reportage de Geoffrey Defèvre, Marine Sabourin et Thibaut Marcheteau.
Il faut mettre en place le cortège. D'accord, 10 véhicules. Véhicules de famille, véhicules de police. Véhicules de famille, véhicules de police.
D'accord.
Direction Cazaux.
David écoute les consignes avec attention. Dans quelques minutes, il sera le premier habitant de Cazaux à retourner dans la commune. Escorté par la police municipale, il a encore du mal à réaliser.
Ce qui s'est passé, c'est, pour moi, c'est irréel. Quoi. C'est notre patrimoine qui s'est envolé en fumée. On faisait des balades au lac en famille, les enfants, et voilà, tout est fichu. Quoi.
Ça, c'est des écorces de pin qui ont brûlé jeudi. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu peur.
Répartis en zone, les habitants n'ont que 15 minutes maximum pour prendre quelques vêtements et nourrir ou récupérer leurs animaux. Grisette est donc le premier animal à voir des humains depuis l'évacuation du 14 juillet.
Ça nous fait beaucoup de bien aussi de savoir que les Casalins sont heureux de pouvoir retrouver leurs animaux en bonne santé et pouvoir s'en occuper.
Bien que le feu n'avance plus sur la commune, David et les habitants de Cazaux devront encore patienter quelques jours avant de retrouver leur maison.
38 départements désormais en alerte orange en raison de la canicule. La vigilance recouvre une large moitié de la France allant de la Bretagne à la Côte d'Azur. Les températures vont encore augmenter demain, près de 40 degrés, notamment dans le sud-ouest. Et puis à l'heure où vous êtes nombreux à avoir pris le chemin du littoral, quelle est la qualité de l'eau sur les plages? Le Figaro a recensé la qualité de plus de 1800 plages du pays et noté les communes selon la propreté des flots. On fait le point avec Yann Effelet.
Les plages françaises passées au crible par l'ensemble des agences régionales de santé. Et sur l'ensemble des côtes, l'eau est globalement d'excellente qualité. Deux bactéries pathogènes sont recherchées, l'Escherichia coli et les entérocoques intestinaux, deux organismes signes d'une pollution fécale. Aucun souci à se faire en Occitanie et en Corse, aucune plage n'y est mal classée. Et les deux régions affichent même la plus forte proportion d'eau d'excellente qualité. Sur le pourtour méditerranéen, seule la Provence-Alpes-Côte d'Azur vient noircir le tableau. Entre Marseille et Bandol ou à l'ouest de Nice, quelques plages présentent des concentrations en germes élevées, des situations qui nécessitent toutefois rarement de fermer l'accès à la baignade. Côté Atlantique, le Figaro pointe un mauvais élève, la Bretagne. Les Côtes d'Armor sont le département avec la part la plus importante de plages de qualité insuffisante. En cause, la présence d'algues vertes qui a déjà justifié des interdictions d'accès au public. Plus au sud, quelques espaces situés en embouchure de fleuves ou rivières pâtissent d'un mauvais score en Charente-Maritime. Mais les îles d'Oléron et de Ré sont particulièrement bien notées.
Pour ce nouveau week-end de départ en vacances, Bison Futé annonce des conditions de circulation difficiles, voire très difficiles. Toute la France est notamment en rouge dans le sens des retours. Demain, la suite avec vous, Vincent.
Merci beaucoup Mathieu, on vous retrouve dans une demi-heure pour un autre tour de l'actu. Soyez le bienvenu dans Ça se dispute en direct sur CNews avec mes invités. Donc ce soir, Alexandre Devecchio, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, rédacteur en chef au Figaro. Et Julien Drey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous, merci d'être avec nous, fondateur du mouvement Réinventé. On va commencer cette émission avec ce qu'il s'est passé à Angers la nuit dernière. Trois jeunes, 16, 18 et 20 ans, qui ont été tués à coups de couteau, donc la nuit dernière à Angers, dans le Maine-et-Loire. Le suspect de 32 ans, lui, a été interpellé. Les détails avec Régine Delfour.
Il est 1h20 du matin lorsque deux jeunes filles appellent la police car elles sont importunées par un homme. Un équipage dépêché constate que la situation s'est calmée. Les jeunes filles ne veulent pas porter plainte. Les policiers repartent. Mais peu de temps après le départ des policiers, l'homme recommencent. Des personnes présentes donc interviennent et réussissent à le faire fuir. L'individu revient ensuite muni d'un couteau et attaque toute personne sur son passage. À 2h55, les pompiers sur place requièrent la police. Le temps que les policiers arrivent, des badauds prennent en chasse le suspect. Écoutez et regardez, ces personnes vont tenter de l'arrêter.
Lâche le couteau, viens ! Hé ! Lâche le couteau, viens ! Lâche le couteau, viens. Viens. On t'a vu, hein. Putain, il a planté au moins 10% de ce chien. Hey.
La police intercepte le suspect. Il tient le couteau ensanglanté. Je vous rappelle que trois personnes ont été tuées, dont un mineur de 15 ans. Trois autres sont légèrement blessées, dont un jeune de 16 ans. Selon une source proche du dossier, l'homme serait soudanais. Il aurait 32 ans. Il serait inconnu des services de police et du renseignement.
Voilà donc pour les détails. Avant d'entamer les discussions, j'aimerais qu'on revoie cette séquence terrible où on voit cet homme armé d'un couteau dans la rue qui se fait importuner, en tout cas qui se fait rattraper par des jeunes à Angers. On regarde et on revient.
Lâche le couteau, lâche le couteau. Lâche le couteau, viens. Hé, lâche le couteau, viens. Lâche le couteau, viens. Viens. On t'a vu, hein. Putain, il a planté au moins 10% de ce... Ce chien, hé, lâche le couteau là.
Voilà, elle est terrible cette séquence, Alexandre Devecchio. On salue le courage néanmoins de ces jeunes gens parce que cette personne-là vient à ce moment-là de tuer trois personnes à Angers.
Oui, alors ça n'a pas été directement mentionné dans le reportage, mais c'est quand même un réfugié politique soudanais. Alors il n'a pas de condamnation, mais il est connu de certains fichiers pour des faits de conduite en état d'ivresse, à Passon, mais également de violence et de dégradation. Et donc la première question qui se pose, malgré tout, c'est que faisait-il sur le territoire ? Je crois qu'on ne peut pas accueillir des gens qui ensuite commettent des infractions, des violences sur le territoire. C'est la première chose, ils doivent être expulsés dès que leur comportement n'est pas irréprochable. Donc c'est un débat infini. On voit que Gérald Darmanin a commencé à dire que les gens qui étaient condamnés, etc., maintenant seraient expulsés. Reste à savoir comment. C'est là où
c'est
on est resté
souhait.
Sur...
C'est un souhait.
C'est un souhait. Alors on progresse sur le diagnostic. Il y a un diagnostic de bon sens que la majorité des Français ont fait depuis longtemps. Mais le rôle du politique, c'est d'apporter des solutions et dans le comment. Là, il ne nous dit pas grand-chose. Gérald Darmanin, je pense qu'il y a un problème de droit. Tout simplement, avec des juges des libertés qui ont aujourd'hui trop de pouvoir. Il faudrait que le préfet puisse expulser immédiatement et à la limite qu'il y ait un contrôle par la suite. Il y a un certain nombre de règles européennes qui interdisent d'expulser si les personnes ont une famille en France. Enfin, il y a tout un tas de règles, mais qu'il faudrait assouplir. Moi, je crois que l'état de droit, c'est aussi ce qu'on en fait. Et c'est aux législateurs et aux souverains qui représentent la souveraineté populaire de le faire. Et pour ça, il faut de la volonté politique, il faut avoir le courage d'affronter certaines associations. Et pour l'instant, on n'y est pas, puisque les vœux pieux, ça ne sert à rien en politique. Donc il faut qu'on nous explique comment et qu'on sorte de cette situation, parce qu'on ne peut pas tolérer que des jeunes Français meurent comme ça pour rien.
Julien Drey.
D'abord, je regardais les images. Il faut saluer le courage de ces jeunes qui prennent des risques énormes. D'un point de vue, c'est même presque des risques. Ils mettent leur vie en danger, quoi, parce qu'ils ont en face d'un vrai tueur, devenu certainement ivre de sa puissance avec son couteau. Alors, c'est des hommes qui sont à la dérive. Le problème, c'est que c'est des profils. Voilà. Hein, c'est pas n'importe qui se retrouve dans cette situation, c'est des profils. Ça commence à devenir, je dirais, récurrent, ce type de profil. Et c'est vrai que, légitimement, on se pose la question, comment ça se fait que, quand il y a des signes tangibles que donne Alexandre, que je ne connaissais pas d'ailleurs, que je découvre en l'écoutant, mais ça renvoie à des choses qu'on a déjà vues. Comment ça se fait que, quand il y a des signes de ce type, qui montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ou qu'on a le profil de quelqu'un qui peut, à un moment donné ou à un autre, basculer dans l'ultra-violence, parce que c'est ça le fond de l'affaire, et qu'on fasse rien, qu'on attende. On attend quoi? D'aller derrière les cercueils, pleurer en disant, finalement, c'est terrible. Alors moi, je pense à ces familles qui sont endeuillées aujourd'hui par le comportement de cet homme qui, sur le fond, aurait dû être raccompagné à la frontière et expulsé immédiatement s'il y avait des faits tangibles de comportements violents, des choses comme ça. Je veux dire, un réfugié politique, il n'a pas à être en état d'ivresse sur la voie. Alors, il peut y être une fois, on peut donner un avertissement en état d'ivresse, je dirais. Bon, ça peut arriver, mais encore. Mais je veux dire, s'il y a eu des faits de violence, non, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il faut, dans ce cadre-là, qu'une bonne fois pour toutes, la France prenne ses responsabilités. Parce que on se réfugie trop derrière l'Europe, derrière les lois, etc. Et le sentiment que ça donne, c'est un sentiment d'impuissance. Et je me demande comment des responsables politiques peuvent se présenter devant les familles de ces enfants endeuillés, leur disant, vous comprenez, on a respecté les règles européennes, etc. etc. Les familles, à juste titre, elles ne comprendront pas.
Et ne serait-ce que là, il est réfugié politique. Moi, je suis pour qu'on accueille des réfugiés politiques, mais à force de les accueillir sans se donner les moyens de ne pas accueillir justement des gens qui vont basculer dans la violence, parce qu'on sait que c'est dans des pays qui sont violents, le Soudan, des gens qui ont des histoires compliquées, on menace finalement ce droit en confondant. Après, il y a la question du fait qu'on confond souvent les migrants et les réfugiés politiques, mais du coup, on ne peut plus. Les gens vont, à force, vont être contre le fait d'accueillir des gens qui sont vraiment menacés, qui ont fait preuve de courage dans leur pays. Et ça, c'est l'honneur des démocraties occidentales de les accueillir. Mais c'est un nombre très réduit de personnes. C'est sous certaines conditions. Et si on n'est pas capable de retrouver finalement la maîtrise des frontières, des gens qu'on désire accueillir, on ne pourra même pas offrir l'asile à ceux qui, convenablement, à ceux qui le méritent. Et ça pose la question aussi des sociétés trop ouvertes. Bien sûr qu'une société doit être ouverte, doit accueillir ceux qui, comme je l'ai dit, qui sont d'authentiques réfugiés politiques, mais on est dans un monde violent, et est-ce qu'on peut accueillir toute la violence du monde, des gens qui ont des mœurs trop éloignés des nôtres et qui, arrivés sur le territoire, commettent des infractions? Je crois que non. Je crois d'ailleurs.
Je suis sûr qu'on puisse faire un rapprochement entre les mœurs et la violence.
Oui. Si, moi, je pense que oui. Alors, peut-être que ce sera le sujet du débat, mais oui, évidemment que si. Évidemment que quand vous êtes dans un pays en guerre avec des mœurs très éloignées des autres, des sociétés, pour le coup, on parle beaucoup de patriarcat. Vous voyez, les féministes, tous les jours en France, nous parlent de patriarcat. Mais c'est des pays extrêmement patriarcales où, par exemple, la place des femmes n'a rien à voir avec la place des femmes en France. D'ailleurs, il commence par agresser.
C'est pour ça que cette personne-là
commence par agresser les femmes. Ça commence comme ça, l'histoire. Il commence par agresser les femmes. Les jeunes lui disent « Bon, tu arrêtes », et il revient avec un couteau. Donc oui, il y a un rapport entre la culture d'origine, des mœurs archaïques et la capacité d'intégration. Et c'est évidemment moins facile d'intégrer quelqu'un qui vient qui a une culture très différente de la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on est enfermé à jamais dans sa culture, que ce n'est pas possible, mais ça veut dire qu'il faut faire attention quand on accueille des pays trop loin des nôtres. Donc oui, moi je fais effectivement le rapprochement. Je crois que beaucoup de Français font le rapprochement, et les gens, les spécialistes de la violence qui étudient ces questions-là le font aussi. Je pense à Maurice Berger, par exemple, qui s'occupe de violence des mineurs et qui dit que la violence des mineurs vient essentiellement de familles qui ont des mœurs, des histoires différentes des nôtres. Voilà.
Mais confondons pas les choses. Il y a le problème des réfugiés politiques, il y a le problème après des étrangers en situation régulière ou irrégulière territoire. Là, donc ne globalisons pas tout. Là, on est sur un problème de statut de réfugié politique. Donc la question n'est pas son intégration d'un certain point de vue. Là, pour l'instant, le statut de réfugié politique, c'est qu'on accueille quelqu'un qui est menacé de vie, dont la vie est menacée dans son pays d'origine, et en général, on l'accueille en vue, à un moment donné ou à un autre, qu'il puisse retourner dans son pays si
bien que
la démocratie... Je voudrais juste finir. Aussi en vue que de voir, etc. Alors, j'insiste pourquoi ? Parce que le Soudan est un pays qui a connu des rééquilibres, des mobilisations politiques très importantes, je ne suis pas sûr aujourd'hui que la vie des opposants soudanais soit menacée à ce point. Elle était menacée du temps de la dictature, mais la dictature est tombée. D'ailleurs, il y a eu des résistances formidables de ceux qui étaient là-bas. Et je dirais presque, si je me permettais cette polémique, c'est que s'il était un combattant de la liberté, eh bien, il y avait l'occasion pour lui de retourner dans son pays pour aider ceux qui se battaient pour la liberté et qui risquaient leur vie. Voilà. Et donc,
c'est un éternel débat. C'est toujours facile à dire de notre point de vue.
Non, c'est facile à dire, mais je veux dire que ça veut dire, c'est là où je voulais en venir, que dans le dossier d'un réfugié politique, c'est normal qu'à un moment donné, on réexamine cette situation. Et je pense que dans ce cadre-là, ça n'a jamais été fait. Parce que peut-être que si on avait réexaminé, on aurait estimé qu'à un moment donné, sa vie était menacée parce qu'il y avait des dictatures et qu'il était en train de prolonger un statut qu'il ne méritait pas. Voilà. Alors, je ne cherche pas à expliquer l'inexplicable, mais je pense qu'il y a un problème et qui est pas lié. Alors, je suis d'accord, moi, à des histoires de mœurs ou des choses comme ça, parce que vraisemblablement, on va voir qu'il avait une vie insérée dans la société française jusqu'au jour où ça disjoncte. Et pourquoi ça disjoncte, on ne sait pas bien les choses, donc il faudra voir l'enquête. Mais c'est clair que sur le plan, je finis là-dessus, sur le plan du statut de réfugié politique, il doit y avoir régulièrement un réexamen parce que ce n'est pas un statut à vie.
Plusieurs choses. Effectivement, je suis d'accord avec Julien Dray sur le statut de réfugié politique. Et Julien Dray sait bien qu'un certain nombre d'associations font pression en fait, pour qu'on confonde tout. Les gens qui sont réfugiés pour des raisons politiques, parce que ce sont des combattants de la liberté, comme ça a été dit. Et puis finalement, beaucoup d'associations considèrent qu'un migrant économique qui... peut-être, c'est vrai, mange pas à sa faim dans son pays, je conçois que ce soit dramatique, devrait avoir le même statut qu'un authentique combattant de la liberté. Je pense que c'est pas tenable, parce qu'il y a beaucoup de pays où il y a des situations de pauvreté et qu'on peut pas accueillir tout le monde. Donc il y a une volonté des associations d'élargir ce statut de réfugié politique qui me paraît problématique. Et puis il y a un manque effectivement de contrôle. Effectivement, Julien Dray le rappelait, un réfugié politique c'est appelé à revenir dans son pays quand la situation dans son pays s'est améliorée. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, sur la question culturelle, là je ne confonds pas tout,
mais j'élargis
à la question de l'immigration. Je pense qu'il faut, avant d'accueillir les gens, se poser la question s'ils sont en mesure ou pas de s'intégrer à la société française, non seulement de s'insérer économiquement, socialement, mais aussi d'en adopter les mœurs. C'est effectivement l'un des problèmes de la montée de la violence aujourd'hui, et lié pas seulement, parce qu'il y a en même temps une forme de décadence générale, de perte des repères, de perte de l'autorité, mais quand même en grande partie lié à un défaut d'intégration de gens qui viennent de pays qui ont des mœurs différentes, qui ont des mœurs plus violentes et qui ne sont pas capables de s'adapter à la culture française.
Moi, je suis d'accord pour qu'on élargisse tous les débats, mais il faut à chaque fois cerner les situations. Là, on a un réfugié politique. L'objectif du réfugié politique, certes, c'est bien s'insérer dans la société française pour respecter ses fondamentaux. Mais l'objectif du réfugié politique, j'insiste là-dessus, il n'est pas en situation d'intégration dans la société française durablement. Hein, à part si la situation malheureusement l'oblige, mais en général ce n'est pas ça. Voilà. Après il y a le problème de gestion des flux migratoires, d'insertion des populations d'origine étrangère, la culture qu'elles portent, la manière dont les choses peuvent évoluer. Mais là, je pense qu'il faut. C'est pour ça que si on élargit trop vite et qu'on globalise tout, on répond pas aux questions précises. Or, nous avons déjà eu plusieurs incidents violents, très violents, qui renvoie à ce statut de réfugié politique, qui doit être revisité pour rester ce qu'il est, protecteur des libertés et des droits, mais en même temps pas devenir une sorte de droit à tout faire dans la société française.
On est d'accord sur ce point, Julien Dray, mais je pense que ceux qui élargissent le débat sont justement certains hommes politiques, plutôt de gauche, certaines associations qui sont floues, qui vous expliquent que... d'ailleurs, c'est intéressant sur le plan sémantique. Avant, on parlait d'un côté des réfugiés politiques, de l'autre des clandestins. Ensuite, vous voyez que les clandestins sont devenus des sans-papiers, puis des migrants. Et finalement, on a englobé tout le monde dans le statut de migrant. Et je pense que c'est effectivement une sémantique problématique, parce qu'on n'arrive pas à distinguer. Et moi, je suis pour qu'on distingue vraiment les réfugiés politiques, parce que c'est l'honneur des sociétés occidentales d'accueillir effectivement des réfugiés politiques, mais qu'il faut veiller à ce que ce soit bien des réfugiés politiques et qu'ils repartent dans leur pays.
C'est pour ça que je suis vigilant sur la sémantique, parce que je pense que c'est parce qu'effectivement, il y a une forme de globalisation qui s'est installée. Donc on ne sait plus qui est qui. Donc vous êtes étranger, on ne sait pas si vous êtes réfugié politique, migrant en situation régulière, pas migrant en situation, régulière, que ça globalise. Ceux qui le font, bon, ils le font avec générosité parfois, mais en même temps avec une forme de naïveté qui conduit au fait qu'à un moment donné, c'est ce droit même aux migrations qui risque d'être posé. Parce qu'il y a un moment donné où il y aura des crispations de la société qui feront que la société dira bah, « maintenant, ça suffit ». Voilà. Et c'est ce « ça suffit » là qu'il faut éviter. Et pour l'éviter, il faut effectivement être rigoureux sur la manière dont on se comporte. Et les situations très particulières qui sont évoquées là méritent que, justement, on fasse attention. Voilà.
Et donc, qu'on revoie cette, la politique migratoire ?
Tout de même, à un moment donné ou à un autre, il va falloir revoir cette politique migratoire. On voit bien qu'elle pêche de tous les côtés. C'est vrai, Alexandre a raison. Moi, je ne suis pas de cette gauche-là. Je pense qu'il faut que rééquilibrer les rapports avec les pays qui sont en situation économique très difficile, de famine, etc. Mais un migrant, si on considère qu'un migrant économique, c'est une sorte de réfugié politique parce que c'est le capitalisme qui est responsable de la misère dans son pays, là, je pense qu'on s'en sortira plus. Parce que ça veut dire qu'on va surtout... avec ce qui est en train de se passer. Donc il y a un combat pour une aide au développement de ces pays. Elle doit être faite avec les gouvernements. C'est vrai qu'il y a des gouvernements qui collaborent et d'autres qui ne collaborent pas. Il y a des gestes qu'on fait. Je prends une parenthèse, on a réduit les visas par rapport à un certain nombre de pays du Maghreb. On a maintenant une crise sur les bras avec, par exemple, un pays qui est le Maroc, qui a mal apprécié, à juste titre, d'être traité comme un pays passoire, alors que c'est pas vrai que le Maroc collabore à juste titre et correctement. Et au lieu d'aider ces régimes-là, on les a pas, voilà, on a globalisé. Donc il faut reprendre toute cette politique, reprendre la rigueur des termes qu'on emploie, ceux qu'on est capable d'accepter, d'intégrer, ceux qu'on n'est pas capable d'accepter, d'intégrer parce que on n'a pas le dispositif pour cela. Et puis le statut de réfugié politique, il doit rester très précis. On a fait des réformes. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de détournements de ces réformes dans la pratique.
Alexandre Devecchio.
Moi, je suis entièrement d'accord avec cela. Il faut remettre à plat toute la politique migratoire. Et je dirais même qu'il faudrait une politique migratoire. J'ai l'impression, moi, qu'il n'y en a pas. Hélas, qu'il y a une forme d'impuissance publique dans ce domaine et que les gens arrivent en France et ils y restent. En réalité, on voit bien que Emmanuel Macron avait promis, à valeur actuelle, il y a deux ans et demi, que toutes les OQTF, c'est-à-dire la reconduite à la frontière, seraient effectuées. En réalité, 80% des gens qui sont là en situation irrégulière reste sur le territoire, quand bien même il y a un ordre de les reconduire chez eux. Donc il y a un véritable problème. Il va falloir y mettre des moyens. Ce que je vais dire n'est pas très populaire. Je pense qu'il faut aussi commencer par faire des centres de rétention, parce qu'il faut aussi que ce soit dissuasif. Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un quand quelqu'un doit être reconduit à la frontière, il n'est pas expulsé. On lui dit, monsieur, on lui donne un papier. On lui dit, monsieur, il va falloir que vous rentriez chez vous. Personne ne rentre chez soi. Donc il va falloir mettre les gens en centre de rétention pour qu'il y ait un aspect dissuasif, que les gens sachent que quand ils arrivent en France, il faut qu'ils soient dans les règles, sinon ils sont soit placés en centre de rétention, soit expulsés, mais ils ne sont pas laissés comme ça dans la nature.
On a un problème politique qu'on n'arrive pas à résoudre, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est-à-dire qu'on a une partie de ceux qui doivent être expulsés et qui le refusent et qui vont utiliser tous les stratagèmes, mais c'est normal à titre individuel, pour ne pas l'être. Et on a en face de nous des États qui collaborent et beaucoup d'États qui ne collaborent pas. Et il nous manque y compris des instruments par rapport à des choses très simples. C'est-à-dire que les gens montent sur leur identité, montent sur leur âge et qu'on n'a pas les instruments pour vérifier. Et donc on ne sait pas s'ils sont mineurs ou pas. Vous avez dans les centres de rétention, vous avez beaucoup d'adultes qui se font passer pour des mineurs, et comme ils sont mineurs, ils ne sont pas en situation d'expulsion, alors que quand on vérifie, etc. Donc je pense que de toute manière, si on veut pouvoir garder une maîtrise des flux migratoires et une capacité d'accueil sur le territoire français, ces questions-là, il faut les aborder sereinement, sans en faire des actes de démagogie, sans faire de la surenchère, mais remettre un cadre en place. Et il va falloir se poser ces questions, c'est-à-dire comment on arrive à expulser des gens qui, sur le fond... qu'on n'arrive pas à expulser parce qu'en face de nous, on n'a pas la collaboration nécessaire de la part des États. Là, il y a des discussions difficiles qu'il faut mener, mais il faut les mener.
Je me permets, Alexandre Devecchio, nos informations sur ce terrible drame qui s'est passé hier soir. Donc, trois jeunes sont morts. Le mineur n'a pas 16 ans, mais a bien 15 ans. D'après nos informations, ce principal suspect n'était pas connu des services de police et il serait effectivement soudanais, mais en situation régulière dans le pays. Ce sont nos informations. Alors, je me permets de rectifier. Il nous reste une petite minute trente. C'est une question que je me pose régulièrement. Julien Drey, est-ce qu'on peut parler de réelle insécurité en France ou de sentiment d'insécurité ?
Non, non. Ça, ce débat-là, il faut arrêter. Ça, c'est un débat des années 80.
Pourquoi pas ?
Non, je m'excuse de.
Non, non, mais bien sûr,
vous avez répondu. Mais... D'abord, s'il y a un sentiment d'insécurité, c'est qu'il y a une insécurité réelle. Et donc, moi, j'ai connu ce débat-là dans les années 90. On nous expliquait que c'était un sentiment, que c'était grossi par les médias, que. Non, je veux dire, il y a des quartiers, vous savez comme moi, où il y a une insécurité qui est totale. Vous savez comme moi qu'il y a des bandes qui règnent dans ces quartiers-là. Et donc, il faut arrêter parce que.
Mais ça, même... pour autant, c'est pas nouveau non plus.
Non. Enfin, les choses sont dégradées. Franchement, les choses sont dégradées. J'ai vu des quartiers et sont dégradés au détriment d'ailleurs souvent des populations qui vivent dans ces quartiers-là. Hein. Mais les choses sont dégradées. La violence est devenue plus forte qu'elle ne l'était auparavant. Et si vous voulez, dans les années 90, on avait l'idée qu'on allait refaire les cages d'escalier, on allait refaire des voies pénétrantes dans les cités, qu'on allait rebâtir le cadre et que les choses allaient s'arranger. On sait aujourd'hui que ça a amélioré dans un certain nombre de cités, mais que le trafic de stupéfiants a pris une telle ampleur, la violence liée à ce trafic de stupéfiants et à tous les autres trafics a pris une telle ampleur que l'état de violence dans la société, c'était le titre d'un livre que j'avais fait en 1999, s'est installé.
Julien Drey, Alexandre Devecchio, vous restez bien autour de la table. On va parler politique dans notre prochaine partie, si ça vous va, bien évidemment. Vous restez bien devant votre télévision. À tout de suite. Ça se dispute. Le retour sur CNews, il est bientôt 20h30. On revient en plateau autour de cette table avec Alexandre Devecchio et Julien Drey dans quelques secondes. Mais tout de suite, le flash signé Mathieu Devez.
Les incendies se propagent dans plusieurs pays du sud de l'Europe. L'Espagne et le Portugal sont notamment touchés. En Andalousie, 3000 personnes ont dû être évacuées après un feu près de Malaga. Le Portugal connaît une relative accalmie avec un seul incendie important encore actif dans le nord du pays. Trois jeunes tués à coups de couteau au cours d'une rixe dans le centre-ville d'Angers. Un suspect de 32 ans a été placé en garde à vue. Les trois jeunes hommes tués sont âgés de 16, 18 et 20 ans. Et puis football, l'attaquant Hugo Ekitike, prêté par Reims au Paris Saint-Germain. C'est un jeune espoir français de 20 ans. Il a marqué 10 buts en Ligue 1 avec Reims l'année dernière. Il devrait rejoindre ses coéquipiers en tournée estivale au Japon dans les prochaines heures.
Merci Mathieu Devez. Alexandre Devecchio, vous vouliez...
Non, je voulais apporter une précision, si je me suis mal fait comprendre sur le sujet précédent.
Le terrible drame qui s'est déroulé
voilà,
à Angers.
On disait effectivement il est en situation régulière, mais il est quand même réfugié politique. Et ensuite, il n'a pas de condamnation pour la justice, mais d'après les informations de France Info, reprises par Le Figaro, il est inscrit au fichier des antécédents judiciaires pour conduite en état d'ivresse, violence... et dégradation. Voilà la précision qu'on pouvait apporter. Voilà,
donc il faudra vérifier tout ça.
Il faudra vérifier tout ça.
Absolument. De toute façon, on va suivre les développements de l'enquête, évidemment, sur CNews. On va parler de politique désormais. Quel avenir pour la gauche française, cher Julien Drey, ça vous concerne peut-être, ça vous touche au cœur. Un éléphant du Parti Socialiste, Stéphane Le Foll, a réuni aujourd'hui dans la Sarthe les anti-NUPES de gauche, il y en a beaucoup, avec la participation notamment d'un certain Bernard Cazeneuve, donc de Stéphane Le Foll, de Jean-Christophe Combadélis ou encore de Carole Delga. Julien Drey, à quoi joue Stéphane Le Foll ?
Non, il ne joue pas, je crois qu'il a...
Il veut créer un parti socialiste bis ?
Ça, il faudra lui demander à lui précisément. Pour l'instant, il est ancré, il reste au parti socialiste, visiblement, et il veut essayer de redresser le parti socialiste. Ce que je ne crois pas possible. Voilà pourquoi j'en suis parti.
Parce que, selon vous, le PS est aujourd'hui recroquevillé, impossible de se renouveler et reste dans une forme d'indéfinition politique, comme le dit Stéphane
Le Foll ? Moi, je pense que c'est plus grave. J'ai un jugement encore plus sévère que celui de Stéphane Le Foll. Je pense que le parti socialiste actuel, c'est nupéisé, c'est-à-dire ou mélenchonisé, comme vous choisissez. Alors, d'autant plus que, pour une série de ceux qui, même y compris, doutaient un peu, les succès relatifs qui ont été obtenus aux élections, le fait que le Parti socialiste a maintenu un groupe, etc., fait qu'ils ont l'impression qu'ils sont dans une dynamique similaire à celle des années 80 de l'Union de la Gauche, ce qui, sur le fond, d'après moi, n'est pas la réalité. Et on voit bien que, par ailleurs, ils reprennent à leur compte des positions qui n'étaient pas les positions historiques du Parti socialiste. On l'a vu dans les débats. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai aucune gloire à cela. Je préfère consacrer mon énergie à essayer de refonder une formation politique qui représente ce à quoi je crois, c'est-à-dire un socialisme démocratique, réformiste, laïque, républicain, ancré dans l'histoire du pays, plutôt que dans une radicalité révolutionnaire qui commence à recroire au grand soir et des choses comme ça. J'y ai cru quand j'étais jeune. Ça avait un sens, si vous me permettez, parce qu'on était encore dans le rêve romantique. Aujourd'hui, je ne suis pas le partisan du chaos. Je crois à la démocratie, je crois à la démocratie parlementaire et je crois à la réforme par la démocratie parlementaire. C'est comme ça que j'inscris mon action.
Alexandre Devecchio.
Non, je suis d'accord avec Julien Drey. Moi, je pense que ça va être très dur pour le Parti socialiste de se relever. Je vais vous expliquer.
Alors, de se relever de quoi ? Des législatives, de la présidentielle dernière, de la présidentielle
d'avant. De sa disparition. Hein, Julien Drey a écrit un livre, a fait un film qui s'appelait La disparition.
Prémonitoire.
Je crois. Donc je pense qu'il est définitivement mort parce qu'en réalité, il a participé à l'évolution à laquelle on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire que la dérive communautariste, par exemple, et anti-républicaine qu'on voit chez Jean-Luc Mélenchon, elle était en partie présente chez une partie du PS. La stratégie Terra Nova est déjà une stratégie où on dit on oublie les classes populaires, on se tourne vers les minorités, les jeunes, etc. C'est vrai qu'il y avait Manuel Valls au sein du Parti Socialiste, mais il y avait aussi Christiane Taubira, par exemple. Donc il y avait une ambiguïté sur cette ligne qui sont difficilement crédibles sur les questions de République. Et ensuite, il y avait un Parti Socialiste plus réformiste, plus centriste, mais celui-ci est parti chez Emmanuel Macron, en réalité. Alors, le Foll, en réalité, aurait pu, à mon avis, être ministre d'Emmanuel Macron ou faire partie de la majorité. Moi, je ne vois pas la différence, si vous voulez, entre un socialiste centriste, européen, libéral, comme le voulait François Hollande. Hein. Il voulait un parti démocrate à la française, même s'il ne l'a pas assumé comme Emmanuel Macron, et En Marche. Donc, je ne vois pas où est l'espace politique du Parti Socialiste, même si on aurait bien besoin, effectivement, d'un vrai parti social qui s'adresse aux classes populaires et d'un vrai parti républicain intransigeant, de gauche mais intransigeant sur toutes les questions justement de communautarisme, de multiculturalisme, capable d'être ferme sur la question de l'immigration. Ça existe dans d'autres pays comme au Danemark, mais le problème c'est que le Parti Socialiste a trop participé aux dérives qu'on constate chez la NUPES ou aux dérives libérales qu'on constate chez Macron pour incarner, je dirais, cette voie-là.
Moi, je pense que il aurait fallu faire un véritable inventaire du quinquennat de François Hollande, qui n'a pas été fait, comme on l'avait fait après, par exemple, la défaite de 1993, c'est-à-dire tout remettre à plat, faire le tri entre ce qui avait marché ou ce qui n'avait pas marché, les illusions, les désillusions, les promesses qui n'avaient pas été tenues pour certaines d'entre elles, ou lors des discours enflammés qui sont restés en mémoire, j'ai qu'un ennemi, la finance, etc. Bon. Mais moi, je pense que le rôle du Parti Socialiste, c'est du nouveau Parti Socialiste qu'il faut construire, c'est d'abord reconstruire un parti populaire. Ça veut dire qu'il s'adresse au peuple. Pas un parti qui s'adresse aux classes moyennes ou à une catégorie de population. Parler au peuple, ça veut dire parler du pouvoir d'achat. Mais ça veut dire parler aussi de ce que sont les préoccupations populaires. La question de l'insécurité, hein, l'aborder en tant que telle, pas donner toujours le sentiment...
Ce n'est pas ce que fait la NUPES ?
Pardon ?
Ce n'est pas ce que fait la NUPES ?
La NUPES, sur ces questions-là, excusez-moi, ils sont dans un archaïsme de réflexion que je connais, qui est l'archaïsme des années 80-90. Voilà, il faut, même sur la question de la maîtrise des flux migratoires, il faut avoir une ligne claire. La social-démocratie scandinave ne s'est reconstruite que parce qu'elle a été capable de reconquérir les classes populaires sur une ligne intransigeante sur le plan des questions sociétales que j'ai évoquées et intransigeante sur les questions sociales. Et je réponds à Alexandre, je pense par exemple que sur la fiscalité, moi je ne suis pas macroniste, hein. Je suis pour une réforme fiscale juste, ce qui n'est pas le cas pour aujourd'hui au regard de ce qui est en train de se passer. Je suis pour une politique économique mixte, c'est-à-dire avec l'existence d'un secteur public de qualité. Je remarque simplement qu'on renationalise ce qu'on a privatisé il y a quelques années, que tout n'a pas de cohérence.
Oui, mais... Bon, donc faire le procès des socialistes, mais vous savez mieux que moi quel est le gouvernement qui a le plus privatisé.
Oui.
Celui de Lionel Jospin avec Dominique Strauss-Kahn en tant que ministre de l'économie. Je disais simplement que moi, je ne vois pas la différence entre Dominique Strauss-Kahn et Emmanuel Macron, et je le regrette. Moi, je pense que oui, effectivement, les classes populaires ont besoin d'un parti qui soit à la fois ferme sur les questions identitaires d'immigration et qui soit un peu plus social, qui ait une vision sociale. Or, le Parti Socialiste a abandonné toute vision sociale pour se convertir au marché, finalement, et au marché européen notamment. Et sur la question républicaine, sur la question de l'identité, a souvent sombré dans la démagogie et dans le clientélisme. Et c'est pourquoi il est totalement discrédité et c'est pourquoi ça va être difficile de refaire le Parti Socialiste avec des hommes et des femmes qui ont participé à ce naufrage.
Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est la divergence que j'ai avec Stéphane Le Foll, que j'apprécie, qui a des qualités humaines incontestables et qui a du courage aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, il aurait pu céder aux sirènes. Il a été approché, il n'a pas voulu, il a gardé son identité de socialiste. Il a compris qu'on pouvait avoir, je dirais, quelques sympathies pour telle ou telle personnalité, mais qu'il y avait un cadre qu'il voulait maintenir. Bon, voilà.
Même moi, à Hidalgo, pendant la campagne, il en faut du courage pour y aller.
Je ne sais pas aller jusque-là, mais bon, il en fallait. Je pense que l'erreur que commettent un certain nombre de mes amis, c'est de croire que c'est par une bataille interne de congrès avec ce que je connais, les fédérations, les sections, qu'on va reconstruire. Je pense qu'il faut repartir à zéro. C'est ça, réinventer.
Mais vous avez
repartir à zéro, reconstruire.
Il veut créer une nouvelle fédération, justement. Non pas nouveau parti socialiste, mais nouvelle fédération.
Oui, mais ça veut dire qu'il ne répond pas, si vous me permettez, j'en discuterai avec lui. J'écoute ce que vous me dites là. Moi, je pense qu'il faut... Pourquoi j'ai pris le terme réinventer avec pas tout seul, avec des amis, etc. Parce que je pense qu'il faut reposer, il faut faire ce qu'a fait Mitterrand dans les années 70. Il faut reposer la définition de ce que c'est que le socialisme aujourd'hui. Quels sont ses objectifs à court, moyen terme? Quel est son projet de société? Un parti qui n'a pas de projet, qui n'est pas capable de faire rêver les gens par rapport à ce projet, c'est pas un parti politique qui correspond à ce que doit être un parti socialiste.
Alexandre,
je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que l'une des difficultés qu'ils ont aussi. C'est que les socialistes ont été, et ceux qui restent notamment, Anne Hidalgo était le cas caricatural d'une certaine manière, ont été élus dans les grandes villes. Dans les grandes villes où il y a une sociologie en réalité plutôt aisée, plutôt à l'aise dans la mondialisation, c'est pas là que se trouvent les classes populaires. Et d'ailleurs, les grandes villes ont voté soit Emmanuel Macron, soit Jean-Luc Mélenchon, mais je crois pas tellement pour la politique sociale, je crois parce qu'ils adhéraient à son projet sociétal assez radical. Et donc c'est difficile pour un parti dont les cadres sont élus dans les grandes villes avec un certain type de sociologie, de ne pas s'adresser à cette sociologie-là et d'aller à la reconquête des classes populaires qui vivent plus dans les villes moyennes, dans la France rurale. Ceux qui souffrent aujourd'hui en France sont plutôt dans ces territoires-là et c'est compliqué pour le Parti Socialiste qui est devenu un parti d'élus et un parti d'élus dans les grandes métropoles.
Oui, mais je pense par exemple que dans ce qu'on appelle les quartiers difficiles, il y a des milliers de jeunes qui ont souvent porté la gauche et qui ont été énormément déçus par la gauche parce qu'ils attendaient qu'elle leur donne une place réelle dans la société, qu'elle ne défende pas les délinquants, mais qu'elle leur donne une place, qu'elle le combatte contre la discrimination, dont ils sont victimes malgré tout, qu'elle valorise le travail que certains fournissent pour s'intégrer dans cette société et qu'elle ne soit pas focalisée sur, je dirais, l'élection où on prend un leader de la cité, on le met sur la liste et comme ça on pense qu'on a résolu le problème. Voilà. Donc il y a aujourd'hui des cœurs à prendre et ces cœurs à prendre, il faut les prendre effectivement dans ces quartiers-là. Et l'erreur effectivement qui a été commise, on voit bien le glissement, c'est que grosso modo, on a considéré que ces populations-là, pour une part, elles étaient en dehors du champ démocratique, c'est-à-dire qu'elles ne venaient plus voter, elles étaient abstentionnistes, ou, pour certaines autres, elles étaient passées du côté du Front National. Donc un parti socialiste populaire, c'est un parti qui va reconquérir ces cœurs-là, avec des nouvelles générations, et qui sont prêtes à travailler, parce que moi, je pense que le système actuel suscite beaucoup d'interrogations, y compris dans la jeunesse. Vous avez vu ce qui s'est passé dans un certain nombre de grandes écoles, où ces élèves des grandes écoles ont pris la parole en disant, à travers ce qui se passe sur le plan climatique, à ce qui se passe sur le partage des richesses, etc., nous remettons en cause ce mode de production. Et ces modes de consommation, et on voit bien que cette question-là, elle est réelle, elle est sérieuse, et, comme ça va plaire à Alexandre de Vecchio, nous remettons aussi en cause une forme de construction libérale de l'Europe qui n'a pas porté les fruits qu'on pouvait attendre.
Au final, ce que fait... On va passer...
C'est un beau programme, mais... voilà.
Au final, ce que fait Stéphane Le Foll, c'est relève plus de l'anecdotique qu'autre
chose. Non, il faut... Non, attendez, écoutez. Vous savez, moi, j'ai souvent dit de Stéphane, c'est un roc breton, un menhir. Voilà, c'est un homme carré, qui est courageux, qui est volontaire, qui a un vrai charisme. Je ne désespère pas que dans les semaines à venir, ils comprennent qu'il faut qu'on arrive à refaire tous ensemble. Parce que c'est pas moi qui vais le faire tout seul. Moi, je pose des bases, j'essaye d'attirer des nouvelles générations, j'essaye de discuter avec les anciens, j'essaye de discuter beaucoup avec les enfants perdus, parce que je vois des dizaines de gens qui me disent « il nous manque cette gauche qui nous a fait rêver ». Voilà. Et, je le dis tout de suite, ça ne pourra se faire que dans la confrontation politique. Et la confrontation politique, elle doit avoir lieu, y compris, même si c'est des fois difficile, avec la France insoumise et avec Mélenchon.
Je vais être un peu provocateur, Julien Drey, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, le grand parti des classes populaires, c'est le Rassemblement national ?
Si, pour une part. C'est pour ça qu'il faut aller... Rappelez-vous qu'il y a... La France insoumise,
très
peu. C'est pas la même sociologie. Quand on parle des quartiers populaires, je parle des quartiers de travailleurs, de ce qu'on appelait les travailleurs blancs, entre guillemets. Vous voyez, une partie des gilets jaunes, etc. C'était ça. Voilà, je pense aux populations de territoires comme le nord de la France ou des choses comme ça, où le Front National s'est implanté dans ces anciennes cités minières, ces anciennes cités populaires. Rappelez-vous quand même qu'il y a 10 ans, l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'était d'aller concurrencer le Front National sur ce terrain-là. Vous avez remarqué que dans cette campagne récente, il a complètement oublié tout ça. Et moi, je pense qu'au contraire, le combat, il est là aussi, et qu'il commencera là.
En tout cas, ce que
entièrement d'accord là-dessus.
Ce que fait Stéphane Le Foll nous permet en tout cas de parler du Parti socialiste. C'est quand même finalement
ça arrive de temps en temps.
Assez rare, ça arrive de temps en temps. Mais il faut en parler
même sur la chaîne.
Ça reste exactement, et ça reste de toute façon un parti historique en France. Donc il faut en parler. On va évoquer.
Ça reste un parti qui est adossé à une histoire, parce que celui-là n'est pas le. Je pense que là où est François Mitterrand, il doit se réveiller quelques matins en disant mais qu'est-ce qu'ils ont fait du parti que j'ai construit.
Messieurs, on va évoquer la ministre de la Cohésion des Territoires, Caroline Cayeux, ministre plus que fragilisée par ses propos sur le mariage pour tous, sur la communauté LGBT. Pour tout comprendre, je vous propose de regarder ses explications signées Mathieu Rio.
Tout commence avec des propos tenus en 2013. Caroline Cayeux qualifiait le mariage pour tous de dessein contre nature. Mardi, la ministre des Collectivités Territoriales a assumé ses anciennes déclarations.
Je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais. Je dois vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là.
Ces gens-là, une formule qui fait instantanément réagir. Plusieurs associations anti-homophobie ont annoncé avoir déposé plainte. Caroline Cayeux s'est finalement excusée dans les colonnes du Parisien.
Les propos mentionnés remontent à 10 ans. Évidemment, je ne les utiliserai plus et je les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères, car ils ne reflètent pas du tout ma pensée.
Après ce mea culpa, Caroline Cayeux a reçu le soutien d'Elisabeth Borne.
Je pense qu'elle a eu l'occasion de s'expliquer dans une interview pour présenter ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées. Je pense que les choses sont désormais claires.
Malgré ce soutien, des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître pour réclamer son exclusion du gouvernement.
Tribune à paraître effectivement demain dans le journal du dimanche avec d'anciens ministres, avec également des parlementaires. Alexandre Devecchio, une ministre aussi fragilisée, en tout cas aussi clivante aujourd'hui, doit-elle rester au gouvernement ? Peut-elle ? Ou en tout cas peut-elle rester au gouvernement ?
Il y a plein de choses. Je pense que cette histoire est assez anecdotique en réalité par rapport aux enjeux, aux défis politiques auxquels ce gouvernement va devoir répondre. Alors sur Caroline Cayeux, moi je regrette qu'elle a des propos évidemment maladroits et je regrette même... Je suis embêté pour ceux qui ont défendu des positions contre le mariage pour tous, notamment la manif pour tous. Je trouve que ce mouvement-là, auquel moi j'ai pas appartenu, a été parfois odieusement caricaturé, fascisé, caricaturé en Marie Chantal, échappé de la vie est un long fleuve tranquille. Et c'est une vision que moi j'aime pas, qui était manichéenne, parce que je pense que ce mouvement, on peut être pour, contre, il a soulevé des enjeux qui étaient importants sur la marchandisation de la vie. Ils avaient dit que la loi du mariage pour tous était mal faite parce qu'elle allait mener à la PMA et demain à la GPA. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut entendre. C'est un enjeu important. Et je trouve que Caroline Cayeux, qui en plus n'a pas vraiment appartenu à ce mouvement, en s'exprimant mal, fait le jeu de ceux qui veulent réduire ce mouvement-là à l'homophobie. Je trouve que c'est injuste. Et en cela, je trouve qu'elle se défend mal et que c'est dommage. Ensuite, est-ce qu'il faut la virer pour autant ? Moi, j'aime pas cette démocratie où on condamne les gens sur des petites phrases maladroites. Richelieu disait « Donnez-moi 6 lignes du plus honnête homme et je pourrai le faire pendre ». Et je trouve que ça fonctionne un peu comme ça sur les réseaux sociaux. On retrouve des propos qui datent d'il y a 10 ans, on les balance sur les réseaux sociaux et on veut tuer une personne. Je trouve que c'est pas honorable pour le débat politique.
Des propos qui datent d'il y a 13 ans mais qui font écho aux propos actuels.
Et je trouve que c'est pas extrêmement grave. moins grave, par exemple, si vous voulez mon avis, que Gérald Darmanin, qui ment pendant plusieurs semaines aux Français. Il y a une commission d'enquête et puis on n'en tire aucune conséquence. Là, on pourrait se poser sa question de sa démission. Personne ne se la pose. Là, il s'agit de petites phrases filmées il y a 10 ans, d'une manière de se défendre extrêmement maladroite. Voilà, moi je ne connais pas cette ministre, j'ai pas ni de sympathie ni d'antipathie pour elle, mais si le débat politique se réduit à la petite phrase, au politiquement correct et à la pression voilà, de certaines associations dans le combat et de faire tomber des têtes, je ne suis même pas sûr, si vous voulez, que ça fasse avancer la lutte contre les discriminations. Par exemple, sur la question des homosexuels, on sait que dans certaines cités, dans certains quartiers, très difficile d'être homosexuel. J'entends très peu les associations de lutte contre l'homophobie parler de ça. Ça me paraît plus intéressant que les propos de Caroline Cayeux.
Julien Drey.
Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a eu des positions il y a 10 ans. Et dans ces positions qui sont exprimées il y a 10 ans, quand on a voté la loi pour le mariage pour tous, il y avait certainement des positions très réactionnaires, mais il y avait aussi des questions qui étaient réelles, parce que c'est des évolutions de société qui renvoient à des choses qu'on a vécues, avec des éducations qu'on a reçues, donc des évolutions qui chacun a été obligé de se remettre en cause. Je veux dire, on a reçu des éducations qui étaient très traditionnelles pour la plupart d'entre nous, un papa, une maman, voilà. Et c'est une démarche qu'on doit faire sur nous-mêmes pour surmonter ces formes d'éducation, les dépasser et progresser dans le respect de toutes ces minorités qui ont leur liberté, leurs droits et qu'il faut mettre aujourd'hui et codifier dans la loi. Et c'est un combat qui a été mené. Mais en même temps, ce combat, je l'ai toujours dit, et je m'en rappelle avoir eu des discussions assez sévères d'ailleurs avec un certain nombre de mes amis à l'époque, ne devait pas être méprisant à l'égard de ceux qui se posaient des questions. Mmh. Il y avait d'authentiques réacs, excusez-moi l'expression, mais il y avait aussi des tas de gens qui disaient « vous allez trop vite ». Vous allez trop loin, trop vite. Où on va? Qu'est-ce qui va se passer? C'est les questions qui sont réelles et qu'un gouvernement doit prendre en considération. C'est pour ça que dans ce débat-là, la pédagogie, la discussion, plutôt que l'invective, est essentielle. Voilà. Après, je comprends que ceux qui subissent ces discriminations, ceux qui sont en première ligne dans ces combats-là, ceux qui ont subi les violences, soient effectivement, je dirais, très volontaires, etc. Mais nous, notre travail, c'est de les défendre, de défendre leurs droits et en même temps de faire évoluer toute la société pour des positions qui soient partagées par tout le monde et qui ne continuent pas à véhiculer ces violences-là à leur égard. Après, ce qui est la deuxième chose, c'est sur les propos de la ministre. Moi, ce qui je pense, bon, hier, j'avais pas bien vu la phrase, donc j'avais été plutôt sur la ligne d'Alexandre en disant bon, on va pas non plus faire des polémiques, etc. Mais c'est vrai que ces gens-là est pour le moins remet en cause sa propre autocritique, quoi, si vous me permettez, et commence à se dire est-ce qu'elle fait ça juste pour la forme, parce qu'elle a besoin pour rester au gouvernement, mais qu'au fond, elle a pas évolué. Voilà. J'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un qui dise j'ai défendu ses positions. J'ai évolué, j'ai pris en considération, ça a changé, y compris ma manière de voir. Donc, vous pouvez me faire un procès sur le passé, mais aujourd'hui, j'aime pas le terme, mais j'ai progressé dans la compréhension des événements. Voilà.
Non, je suis d'accord que la phrase « ces gens-là » est extrêmement maladroite, et c'est pour ça que j'ai dit qu'elle prêtait le flanc à ceux qui veulent caricaturer, ceux qui se sont posés des questions et qui continuent à se poser des questions. Maintenant, là où j'ai un petit désaccord avec Julien Drey, c'est si elle n'avait pas évolué, si elle continuait à se poser un certain nombre de questions, est-ce que pour autant elle peut pas être une bonne ministre? Est-ce que quelqu'un qui pense que la loi sur le mariage pour tous est pas la meilleure loi possible, qu'il faut garder certains repères dans la société, que ça va avoir des effets, je le redis, sur la marchandisation de la vie? Est-ce que penser ça, c'est criminel? Moi, ça me gêne qu'on criminalise ça. Alors, c'est vrai qu'elle appartient à une majorité progressiste, mais je vois pas pourquoi quelqu'un qui aurait ces positions-là devrait être taxé d'homophobe. Après, elle se défend très mal. Ça c'est toute certitude.
Voilà, on voit l'image dans la tribune du journal Le Dimanche qui paraîtra demain.
Je suis contre la police de la pensée. Et je pense que sur ces questions-là, on doit admettre que tout le monde n'évolue pas aussi vite et que certains ont du mal à transcender, y compris leur propre éducation. Et donc, il faut les respecter. Donc, ça veut dire que on peut très bien travailler avec des gens qui, sur ces questions-là, vous disent, voilà, je vais pas aussi vite que vous. Pour moi, il y a des choses sur lesquelles je suis, pour l'instant, perturbé par ces évolutions-là. Je le comprends et je le respecte. Voilà. Donc, on peut très bien être ministre de la République en disant, je suis prudent. Voilà. Sur ces positions-là, je continue à discuter. Je discute avec moi-même, je discute avec les gens. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, je pense que son erreur, c'est le terme « ces gens-là ». Et c'est vrai que le terme « ces gens-là », elle aurait dû tout de suite, dans son autocritique, dire « je me suis trompé sur la formule, elle est blessante, je la retire ».
Messieurs, merci beaucoup pour cette heure de débat. Alexandre Devecchio, à très vite. Vous revenez nous voir évidemment quand vous voulez. De toute façon, on vous
merci
voit
beaucoup.
Très souvent sur cette antenne. Julien Drey également. D'ailleurs, Julien, je vous dis à demain, je crois.
Voilà, il paraît.
Demain,
ouais.
Et je vous dis à tout à l'heure pour ma part dans une petite heure sur CNews. À tout à l'heure.
Merci.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.